Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, qu'est-ce qu'une dictature et quels en sont les marqueurs? L'écrivain égyptien Alal Aswani s'interroge dans son dernier livre « Le syndrome de la dictature » publié chez Albin Michel, un essai dont nous parcourons avec lui l'essentiel. Dans cette émission également, la journaliste libanaise Randa Sadaka nous parle de la situation dans son pays alors que le président français Emmanuel Macron a effectué mardi sa seconde visite à Beyrouth depuis l'explosion portuaire du 4 août. Retrouvez cette émission sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Alal Aswani.
Bonjour Éric Bataillon, comment ça va?
Je vais bien, je vous remercie. Écrivain égyptien, vous publiez chez Actes Sud « Le syndrome de la dictature ». Alal Aswani, votre livre démarre en 1967 et la guerre des six jours contre Israël. En quoi cette date est-elle importante pour l'Égypte?
1967, c'était catastrophique pour l'Égypte. Vous voyez, c'était une défaite humiliante pour l'Égypte et c'était une leçon que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, comment une dictature termine toujours par des catastrophes. Vous voyez, alors la guerre 1967 est un exemple qu'on doit comprendre toujours que la dictature, même si elle démarre bien, même si le dictateur construit des projets et tout, mais à un moment donné, il doit vraiment terminer par des catastrophes. Et j'ai montré ça pas seulement pour l'Égypte et pas seulement pour le monde arabe. J'ai présenté des exemples de dictatures de partout dans le monde, de l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et tout.
Néanmoins, vous vous interrogez sur le peuple égyptien qui descend dans la rue apparemment spontanément pour garder Nasser à tout prix comme dirigeant malgré la défaite. En quoi Étienne de la Boétie, jeune philosophe français du XVIe siècle, vous aide-t-il à trouver la solution?
Étienne de la Boétie a présenté pour la première fois une idée incroyablement correcte et inspirante. C'est que la dictature, c'est une maladie des deux côtés. C'est pas vrai qu'un dictateur, à un moment donné, pourra s'imposer sur un peuple. Non, mais ce qui se passe, c'est que à un côté, il y a le dictateur et de l'autre côté, il y a le peuple qui est préparé pour la dictature ou parfois même attend la dictature, attend la protection. Vous voyez? Alors, c'est une idée présentée par Lavoisy dans son œuvre Discours de la servitude volontaire. Ça a été très utile pour moi pour comprendre le phénomène de la dictature.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de dictateur sans personne prête à être entraînée par la dictature.
Oui, absolument, absolument. Le peuple, à un moment donné, il se sent en danger. Il veut une protection, il est préparé pour payer la liberté, compris sa propre liberté, compris pour avoir la protection. Et si le dictateur, à ce moment-là, il y a un dictateur, la dictature fonctionne, vous voyez.
Vous décrivez la duplicité dont doit faire preuve tout citoyen pour survivre, ou tout simplement vivre correctement sous une dictature. Est-ce le cas en Égypte, selon vous, aujourd'hui?
Oui, on a une dictature vraiment typique en Égypte maintenant. En Égypte, le choix maintenant, ou bien que vous soyez en prison si vous êtes contre le dictateur, ou bien même si vous ne dites rien, vous risquez d'être en prison aussi, parce que si jamais vous avez participé à la révolution, ou bien vous serez exilé si vous aurez de la chance, ou bien parfois tué, ou bien vous soutenez la dictature. Il n'y a pas d'autre choix.
Vous dites que vous comprenez les amateurs et supporters du football. Pourquoi?
Le football, il y a des gens qui aiment le football partout dans le monde. Ce que je voulais dire, c'est que le football joue un rôle politique dans les dictatures. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le foot présente un monde parallèle. Un monde où les gens peuvent trouver la justice, des règles qui seront appliquées sur tout le monde. Tout ce qui ne trouve pas dans leur vie quotidienne, ils trouvent dans le foot. Alors, ce que je veux dire, c'est que le foot devient plus significatif dans la dictature parce que c'est une solution provisionnelle.
Oui, c'est le fait que les règles existent et sont vraiment appliquées de façon pleine et entière.
Absolument, et on voit ça. On voit la justice, vous voyez. Alors, pendant la vie quotidienne, il n'y a pas de justice. Et alors, les gens, ils s'attachent au foot parce que c'est une solution qui n'est pas vraie, une solution imaginaire, mais c'est une solution. Ils se sentent beaucoup mieux avec le foot parce que les règles sont appliquées sur tout le monde.
Vous écrivez, la Soigny, que pour permettre l'apparition du bon citoyen, le dictateur doit créer une barrière de la peur. De quoi s'agit-il ?
Absolument, c'est que je me demandais et j'ai donné des exemples que le dictateur, en étant au pouvoir, maintenant il monopolise le pouvoir, il ne risque rien, mais il continue à être vraiment brutal, à tuer les gens, à les mettre en prison. Alors la raison, à mon avis, c'est qu'il doit construire une barrière de peur, comme ça le citoyen devient un bon citoyen qui n'attend rien en politique, qui ne s'intéresse plus à la politique, qui a sa bulle, qui vit dans sa bulle, il s'intéresse à ses enfants, à la religion en Égypte, dans le monde arabe, et au foot. Comme ça, il sera tranquille. Et c'est exactement ce que le dictateur veut construire, le bon citoyen.
Un bon citoyen qui vous énerve, finalement.
Oui, mais c'est le bon citoyen, c'est mon terme, mais ça suffit. Ça ne veut pas dire que c'est un bon citoyen. Mais c'est un citoyen négatif, c'est un citoyen soumis, c'est un citoyen qui a laissé sa liberté, ses droits de l'homme, qui veut seulement être protégé.
Alain Lassouani, y a-t-il malgré tout des sujets de consensus en Égypte aujourd'hui ? Vous évoquez le sport et aussi la religion.
Oui, il y a toujours ça, hein. Le sport, le foot surtout. C'est pas le sport, c'est le foot. L'Égypte, les Égyptiens, le foot pour les Égyptiens, c'est une autre religion, vous voyez, et la religion. La religion elle-même peut être une force révolutionnaire et peut être une manière vraiment de protéger la dictature. Alors, ce qui se passe en Égypte, c'est qu'on a la religion comme moyen de protéger la dictature. Vous voyez, c'est qu'on apprend aux gens, on explique l'interprétation qu'on donne à la religion, c'est une interprétation très négative, qui dit simplement qu'on n'attend rien dans ce monde, on attend l'autre vie. Et comme ça, le dictateur, il sera tranquille. Vous voyez, parce que, quelle que soit la justice qui existe, les gens ne se révoltent jamais et ils disent que ça va, on s'en fout de cette vie, on attend la justice devant Dieu après la mort.
Vous consacrez également un chapitre à la théorie du complot. Une telle théorie est-elle inhérente à un pouvoir dictatorial ?
Oui, il n'y a pas, ça n'existe pas. Moi, j'ai étudié la plupart des dictatures dans le XXe siècle, et jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un dictateur sans complot. Le complot est vraiment quelque chose de très utile pour la dictature, et j'ai expliqué dans le livre pourquoi. Alors, il y a toujours les ennemis, il y a le complot, on doit s'attacher à notre protecteur, à notre leader, pour faire un combat contre le complot. Souvent, le complot, c'est n'importe quoi, vous voyez.
Mais pour propager l'état d'esprit fasciste, est-ce qu'il faut forcément contrôler les médias ? Diriez-vous d'ailleurs que c'est le cas aujourd'hui en Égypte ou dans d'autres pays de la région, comme la Turquie ?
Oui, c'est essentiel. La Turquie nous donne, l'Égypte nous donne comment il doit contrôler les médias pour contrôler les gens, pour qu'ils puissent vraiment former l'opinion publique selon ses dimensions, les dimensions du dictateur. On voit en Turquie un exemple en plus, c'est que comment un islamiste, et j'ai expliqué la différence entre musulman et islamiste, quelque chose qui est une grande différence, dont on parle très peu à l'Occident. Vous voyez, on explique très peu la différence entre musulmans et islamistes, j'ai expliqué dans le livre, vous voyez, et un islamiste comme Erdogan, il utilise la démocratie pour annuler la démocratie, vous voyez. Alors, il utilise la démocratie, ce qu'on a vu en Turquie, il utilise la démocratie, il change la constitution pour monopoliser le pouvoir, et après, il chasse tous les juges qui ne sont pas pour lui, il met tous les journalistes en prison, alors il devient un dictateur islamiste, mais à travers une démocratie.
Merci Alaa El Aswany.
Je vous remercie infiniment.
Écrivain égyptien, votre dernier livre, Le syndrome de la dictature, est publié chez Actes Sud.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Randa Sadaka.
Bonjour Eric.
Écrivaine et journaliste, vous présentez chaque semaine sur Télé Liban l'émission culturelle 5 de pique. Alors on a vu ce mardi Emmanuel Macron en visite à Beyrouth pour la seconde fois depuis l'explosion du mois d'août. Randa, comment les Libanais jugent-ils cet intérêt du président français pour votre pays ?
Je crois qu'ils sont très touchés de cet intérêt. Ils sont dans l'expectative de ce que la confiance française pourra traduire sur le terrain. On a pu commencer à voir l'énergie positive qui s'est traduite la veille de l'arrivée du président Macron, puisque le Bloc national, Beyrouth Madinati et plusieurs autres groupes de la société civile appelaient déjà à la formation d'un gouvernement restreint, doté de pouvoirs législatifs importants, exceptionnels, et ils s'inscrivaient dans l'homélie du patriarche maronite, qui avait eu lieu le jour même. Notre président de la République, le général Michel Aoun, appelait déjà à la proclamation d'un État laïque. Et le jour de l'arrivée du président Emmanuel Macron, l'ambassadeur du Liban en Allemagne, Mustafa Adib, proche de l'ancien Premier ministre Mihati, a été élu comme Premier ministre du pays. Donc déjà, il y avait, si vous voulez, une bonne énergie. La visite du président Macron au Liban a été extrêmement productive, nous semble-t-il, et on a retenu ce que le président a dit, pas de réforme, pas d'argent. Ça a profondément marqué le peuple, cette volonté d'exigence auprès des politiques libanais. On a compris ici le message qui, nous, me semble-t-il, était que l'impossibilité des réformes était reliée pour le président Macron au système confessionnel intrinsèquement, comme s'il nous disait qu'il condamnait ce renouvellement. Donc on a compris qu'il nous faut des réformes structurelles et qu'elles soient menées au plus vite, en urgence, par un gouvernement de mission. Donc nous sommes maintenant dans l'attente du message fort politique délivré par la France, en espérant que les dirigeants libanais, pour une fois, se montreront à la hauteur de cette confiance qui leur est accordée.
Mais justement, Randa Sadaka, vous évoquiez la nomination à la veille de la visite du président français de Mustafa Adib comme Premier ministre. Or, Mustafa Adib est un sunnite et donc il est finalement la traduction de ce qu'est aujourd'hui la Constitution, c'est-à-dire une Constitution basée sur le confessionnalisme, alors que peut-être les manifestants depuis plus d'un an au Liban réclament autre chose.
Absolument, mais est-ce qu'un gouvernement avec un chef de gouvernement sans couverture sunnite pourrait-il agir ? Au niveau du Parlement, à ce moment-là, il faudrait des réformes structurelles menées par un gouvernement investi de pouvoirs exceptionnels qui lui permettraient, par exemple, cher Eric, d'agir après la modification de la Constitution. Ça aurait été le cas si le candidat de la rue, qui était le juge Nawaf Salam, aurait été élu, parce que c'est le candidat de la rue et malheureusement, il ne disposait pas d'une couverture politique sunnite et plus large. Donc, il n'aurait pas pu agir, on aurait été dans une situation de blocage. Or, ce que la France a dit vraisemblablement, c'est le blocage non, mais la diplomatie active, oui.
Randa, un mois après l'explosion dans le port de Beyrouth, où en est-on en termes de bilan et surtout de perspectives de reconstruction ?
Oui, alors c'est vrai que la déflagration du 4 août, qui est quand même la troisième la plus forte au monde après Hiroshima et Nagasaki, avec ses 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont littéralement soufflé la moitié de la ville, pose aujourd'hui beaucoup de questions. Et c'est pas au bout de trois semaines qu'on trouvera les réponses. Qu'en est-il de ce stockage du propriétaire russe aux abonnés absents ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les responsables du port disent avoir fait six demandes entre 2014 et 2017 aux tribunaux libanais pour obtenir l'autorisation de se débarrasser de cette substance. Et la version officielle dit, on le sait aujourd'hui, que les réparations dans un entrepôt voisin auraient causé un départ d'incendie. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un consensus de la communauté internationale scientifique, c'est très important de le rappeler. Le nitrate ne peut exploser que dans deux hypothèses, s'il reçoit un choc et une pression, ou s'il est stocké à côté de carburant et qu'il reçoit une pression suite à une oxydation. Mais dans ces deux cas, c'est comme à Toulouse en 2001 et au Texas en 2013, c'est de la fumée noire qui s'échappe. Au Liban, on a vu un champignon blanc qui a soufflé la ville. On a voulu rayer de la carte du monde Beyrouth. Pourquoi? Que s'est-il passé? Aujourd'hui, l'enquête a été confiée au juge d'instruction par intérim auprès du tribunal militaire qui est Fadi Sawan. Et aujourd'hui, il travaille avec la coopération d'experts étrangers. Mais qu'en sera-t-il de la responsabilité politique? Personne ne peut le dire. Je vous rappelle que la justice libanaise doit quand même démêler les responsabilités de trois ministères, finances, travaux publics et transports et justice. Aujourd'hui, 25 personnes liées aux explosions au port de Beyrouth ont été arrêtées par ce juge.
Mais pensez-vous que la rue qui continue à manifester à Beyrouth et dans d'autres villes au Liban va se contenter de cette tentative de la justice de faire la lumière sur cette affaire ?
Je pense qu'ils attendent des résultats et des réformes structurelles. Donc il faut attendre maintenant dans les 15 jours pour avoir la nomination du gouvernement, ce à quoi s'est engagé l'ensemble des forces politiques, et voir si on est dans une dynamique de changement profondément. Rien ne calmera la rue avant ça.
Vous-même, Randa Sadaka, sur un plan plus personnel, est-ce que vous avez été touchée par cette explosion ?
Je ne pense pas qu'une personne habite à Beyrouth et n'ait pas été touchée. On l'a tous été de manière directe ou indirecte, on a perdu des amis. À titre personnel, on a eu des dommages matériels dans notre domicile à Chafi, mais on a eu beaucoup de chance, on est sains et saufs physiquement, mais psychologiquement, c'est un traumatisme énorme.
Merci Randa Sadaka, je rappelle que vous êtes journaliste libanaise, rédactrice en chef de l'émission culturelle 5 de pique sur Télé Liban.
Merci Eric.
Tarek Yamani parcourt le monde avec sa musique au bout des doigts. Le pianiste de jazz libanais sera à Paris, au Duc des Lombards, lundi et mardi prochain. Dans son dernier album, Peninsular, il exprime un jazz infusé d'arabesque qu'il puise dans la musique classique orientale et jusque dans les terres du golfe persique. Ce titre, Indizar, en est un bel exemple. Au Duc des Lombards à Paris les 7 et 8 septembre. Orient Hebdo Dimanche, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. À samedi prochain avec plaisir. Prenez soin de vous.